1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django, édition spéciale ce soir puisque c'est une soirée sur la thématique LGBT. 6 sujets au programme ce soir avec nos chroniqueurs Claudia, Aude, Yves, Aline et Pascaline. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Actualité oblige, nous allons prendre la température auprès du collectif R, Claudia.
Ah, là j'entends quelque chose.
Eh ben oui, heureusement qu'on entend quelque chose. Bonjour Claudia, alors c'est la température du collectif R.
Alors, on est en direct, de l'INI, et après on parlera avec Simon Clément du collectif R qui va nous mettre au jour sur l'occupation à l'Université de Lausanne.
Voilà, donc on en parle dans quelques instants. Vivre à Lausanne avec toi, Aude, ce soir, dernière émission sur notre thématique du mois de novembre, la question LGBT.
Oui, Fabien, et on recevra deux jeunes, Marina et Fabien pour...
Moi, je me sens toujours là.
Et Pascal Navré pour nous parler de leur coming out.
Voilà grand sujet très important dans la vie d'une personne homosexuelle, le coming out. On en parle dans un quart... Non, dans 5 minutes, pardon. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents et ce soir, ce sera l'occasion d'une nouvelle édition du presse-papier de l'actualité de la presse des migrants, Yves.
Oui, tout à fait, Fabien. Donc, le presse-papier s'inscrit dans ce mois de Radio Django sur la problématique LGBT avec cette question: est-ce que l'homosexualité peut être un motif pour obtenir l'asile en Suisse?
Ouais, c'est une bonne question. Hein. Il faut encore attendre un quart d'heure pour avoir la réponse. Ce sera tout à l'heure avec toi, Yves. Et puis, deuxième sujet de la Rose des Vents, comme chaque dernier mardi du mois, nous aurons le portrait d'Aline. Ce soir, c'est le portrait de Max Lebe, auteur suisse d'origine camerounaise, qui nous parlera de son écriture, de la politique, de l'exil, mais aussi de l'homosexualité, comme c'est le thème qui nous occupe ce soir. À 7h20, on passera à Cultiver Lausanne avec l'agenda de la semaine. Nous vous proposons quelques idées de sortie sur ce domaine LGBT nous intéresse aujourd'hui. Enfin, nous passerons de l'autre côté avec toi, Pascaline, et nous parlerons cinéma.
Oui, exactement, avec le ciné-club LGBTIC, donc le ciné-club de l'Oblo, qui est également qui projette des films sur cette thématique, toujours LGBT.
Effectivement, grande soirée avec des sujets LGBT, on vous le rappelle, lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Donc ce soir, l'actu du collectif R, le témoignage de personnes homosexuelles, le presse-papier de l'actualité de la presse des migrants, le portrait de Max Lebe, l'agenda de la semaine et le cinéma Oblo, qui ont tous les deux des sorties en lien avec cette question LGBT. C'est le menu de ce mardi 24 novembre sur Radio Django, édition à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h, soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Bonsoir Claudia, tu es en direct de l'Université de Lausanne où depuis hier le collectif R occupe un auditoire du bâtiment Géopolis.
Oui Fabien, exactement. L'occupation a commencé hier matin avec une cinquantaine de membres du collectif R ainsi qu'une vingtaine de migrants menacés d'expulsion. L'objectif de la communauté académique et les étudiants à prendre position en faveur d'une politique d'hospitalité.
Alors, par ce geste, le groupe qui occupe depuis mars la salle de la paroisse de l'église de Saint-Laurent pour porter protection à des migrants menacés d'expulsion, le groupe veut ouvrir une réflexion plus approfondie sur l'accueil des migrants?
Oui, tout à fait. Et c'est pour cette raison que jusqu'à jeudi, les collectifs proposent une série de conférences, de débats, d'ateliers, des films, ainsi que des repas solidaires pour réfléchir autour des conséquences des renvois dans les pays situés aux portes de l'Europe et pour élargir le soutien en lutte que les collectifs mènent depuis 9 mois avec l'objectif de faire suspendre les renvois Dublin.
Alors Claudia, tu te trouves donc avec un des membres du collectif R?
Oui, je me trouve avec Simon Clément. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors Simon, comment a été reçue l'occupation par les corpus académiques et les étudiants?
Alors, pour être clair, on est rentré au moment de la rentrée dans l'université. Il y avait déjà des signataires sur une pétition, donc une partie de la communauté académique était déjà en soutien. D'autre part, on le voit par des faits que dans les conférences qu'on a les soirs et les après-midi ici dans notre bureau d'occupation, nombreux sont les personnes à y assister. Et d'une manière générale, je dirais que c'est plutôt bien reçu et que les gens sont plutôt contents qu'on soit là et de parler de cette thématique.
La direction aussi?
Alors la direction, pour l'instant, nous n'avons reçu qu'un seul courriel de sa part, en nous invitant à une discussion ce soir qui a lieu même en ce moment. Donc, je n'ai pour l'instant pas de retour puisqu'il est toujours en cours. Donc par la direction, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose de plus que cela.
Et puis, qu'est-ce que vous attendez avec cette nouvelle action du collectif R?
Disons que nous sommes à l'université parce que c'est un endroit de savoir, de partage, de connaissances. Et du coup, c'est important de faire parler de cette thématique et de ce qui se passe, des problèmes qui sont réels et qui sont actuels aujourd'hui. Et on pensait très important et capital de soulever cette problématique au milieu d'un univers qui bouge autant que ce que l'on y est.
Et puis, l'occupation, normalement, c'est prévu jusqu'à jeudi. Qu'est-ce qu'il y a en programme? Qu'est-ce qu'il y a à signaler d'important pour nos écouteurs?
Alors, je vous inviterai tout particulièrement à venir les après-midi et les soirées, enfin début de soirée 17h, disons. Les après-midi, c'est entre 14 et 14h30 et les soirées 17h, où il y a à chaque fois des ateliers l'après-midi sur des thématiques très précises et les conférences le soir, dont une a lieu encore, qui va commencer d'ici quelques instants. Donc, je vous invite à consulter le programme sur désobéissons.ch. Il est au total, il est consultable tout à fait sur ce site internet.
Alors, Simon Clément, du membre du collectif R, merci pour cette mise au jour. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup également à toi, Claudia. On rappelle que tu es avec le collectif R qui restera jusqu'à jeudi à l'Université de Lausanne. Et si vous voulez soutenir les revendications, vous pouvez vous rendre sur place ou suivre le déroulement de l'action sur le site désobéissons.ch. Et on remercie Claudia qui était donc en direct de l'auditoire du nouveau bâtiment Géopolis. C'est à l'Université de Lausanne. Ce soir, c'est donc la dernière émission sur notre thématique LGBT et dans Vivre à Lausanne, une chronique témoignage. Avec Aude, nous recevons ce soir deux jeunes homosexuels qui viennent nous parler d'un moment particulier dans leur vie, le coming out.
Et en effet, Fabien, donc le coming out qui désigne une annonce volontaire de son orientation sexuelle, c'est souvent une étape délicate dans la vie d'un homosexuel. Il se retrouve parfois confronté à des proches peu compréhensifs et c'est souvent une période assez chargée émotionnellement parlant.
Effectivement, j'imagine. Alors pour en parler ce soir, nous recevons Pascal et Marina. Vous êtes deux jeunes homosexuels de la région lausannoise. Vous avez accepté de partager votre expérience avec nous ce soir. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et bonsoir Marina.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur les ondes de Radio Django. Alors, vous avez tous les deux fait votre coming out il y a quelques années déjà. Alors peut-être Pascal, pour commencer, à quel âge est-ce que tu as décidé de parler de ton orientation sexuelle à ta famille? Et puis comment ça s'est passé?
Alors, j'avais 15 ans, je me rappelle, j'étais en première année au gymnase. Donc oui, j'avais 15 ans. J'en ai d'abord parlé à ma mère. Enfin, j'en avais d'abord parlé à des amis, mais pas grand-chose. Finalement, je trouve que le coming out le plus important, c'est quand même celui qu'on fait à sa famille, la famille avec laquelle on vit, donc en l'occurrence mes parents et mon frère. J'en ai d'abord parlé à ma mère, mon père et mon frère, ça s'est fait un peu par la force des choses. Après, j'ai la chance d'avoir eu absolument aucun problème avec eux. Enfin, je le savais déjà en fait avant de le dire, que ça serait pas du tout un problème. Donc, de mon côté, tout s'est très bien passé.
Donc tu as parlé de ton homosexualité à l'âge de 15 ans, tu nous disais, mais j'imagine que tu en avais déjà pris conscience il y a un moment.
Je ne sais jamais vraiment à partir de quand j'en ai pris conscience. À un certain point, je me dis que c'était toujours là, en fait, et que je ne m'en étais peut-être juste pas rendu compte. Mais c'était là où je me suis vraiment rendu compte et que je me suis dit, mais oui, Pascal, tu es homosexuel. C'était... j'avais tout juste 15 ans aussi. Tout juste D'accord. avant.
Donc tu en as parlé assez rapidement après, en fait.
Ouais, 6-8 mois. Ouais, à peu près 6-8 mois après.
Et toi, Marina, tu avais quel âge quand tu as fait ton coming out?
Moi, j'avais 16 ans. C'était également dans ma première année au gymnase. Par contre, j'ai réalisé moi-même à cet âge-là également. Donc j'en ai parlé rapidement après. Et puis j'ai commencé par mes amis. parce que j'avais besoin de pouvoir en parler à quelqu'un d'abord autre que ma famille pour pouvoir être certaine avant d'en parler à ma famille. Et j'avais la chance d'avoir une amie bisexuelle avec qui j'ai pu en parler, à qui j'ai pu poser des questions et qui a pu m'aider un peu à savoir si c'était vraiment ça, qu'est-ce que je voulais, etc. Puis j'en ai parlé à ma famille, d'abord à ma sœur, et puis après à mes parents. Et je savais que ça allait bien se passer, mais il y a toujours un peu le stress de l'annonce, même si bien sûr on sait qu'on va pas se faire virer de la maison ou comme ça, mais ça reste toujours un moment un peu stressant.
Alors, dans les deux cas, hein, que ce soit le tien Pascal ou le tien Marina, ça s'est bien passé. Est-ce que vous pensez être des cas exceptionnels, Pascal?
Merci. C'est très dur à dire. Je ne peux pas prétendre connaître toutes les personnes homosexuelles de la communauté.
Dans l'un ou l'autre, vous côtoyez d'autres personnes?
Non. Dans les personnes que j'ai côtoyées, pour la plupart, ça s'est plutôt bien passé. Je peux malheureusement quand même citer des cas où ça s'est extrêmement mal passé, avec des familles qui l'acceptent absolument pas, des jeunes qui ont dû quitter leur famille ou bien qui vivent plus en colocation que quoi que ce soit avec leurs parents.
Marina, pour toi ?
Pareil, j'ai des amis et voilà, où ça s'est particulièrement mal passé, mais après j'ai quand même l'impression que le mien s'est particulièrement bien passé parce que je peux en parler avec ma famille sans problème, alors que certains de mes amis, sans que ce soit vraiment négatif, c'est quand même un sujet qui reste difficile à aborder avec la famille.
Pascal, quand tu repenses avec le recul à toute cette période de questionnement, est-ce que tu as un sentiment que c'était difficile pour toi, psychologiquement parlant ?
Non. Comme je l'ai dit avant, je crois que j'en étais toujours conscient. Quand je regarde justement en arrière sur comment j'étais quand j'étais plus petit, vraiment enfant même, je vois que systématiquement c'était toujours les garçons que je regardais, j'étais toujours très intéressé. J'ai eu comme quelques expériences avant même de vraiment me poser la question. Donc non, ça n'a pas du tout été difficile parce qu'il n'y a pas eu de changement où avant je croyais que j'étais intéressé par les filles et puis finalement, en fait, dès que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais une attirance et que j'ai commencé à réfléchir là-dessus pour un des deux sexes, c'était tout de suite les hommes. Donc pour moi, ça a été très facile.
Et toi, Marina, est-ce que tu as souffert personnellement pendant cette période ?
Oui, alors moi, au contraire, je n'y m'étais jamais posé la question avant ça. Et c'est vraiment en arrivant au gymnase que j'ai un peu réalisé d'un coup. Donc oui, c'était compliqué, même si maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis que j'aurais très bien dû m'en douter plus tôt. Mais ce n'est pas le cas. Alors c'est vrai que ça a été un peu abrupt et qu'il a fallu un moment pour accepter et faire quand même la démarche de se dire que voilà, c'est comme ça et passer au-dessus.
Vous parliez tous les deux tout à l'heure de vos amis, alors vous dites que globalement vous en avez discuté avec eux, mais est-ce que dans certains cas vous avez été confronté à des réactions plus difficiles, voire un peu de discrimination, ou globalement ça s'est bien passé avec eux aussi ?
De la part d'amis, donc tu demandes ?
Oui.
Non, très clairement j'ai jamais eu aucune mauvaise réaction de la part de personnes de mon âge, non. On a la chance, je crois, d'avoir une jeune génération qui commence à enregistrer les changements de la société. Pour ça, c'est très chouette.
Et toi, Marina ?
J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit clairement qu'ils voulaient plus me voir à cause de ça, mais j'ai un ou deux amis où j'ai appris qu'ils pensaient que c'était une période et que voilà, ils me croyaient pas. Et que
la fameuse mode.
Voilà, que c'était parce que j'avais une amie bi que du coup ça m'avait influencée et que ça allait passer. Et maintenant, je les vois encore et puis ils ont réalisé, ils sont tout à fait OK avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était un peu en froid parce que pour eux, c'était juste un passage et que c'était pas vrai, etc.
Et puis, est-ce que l'un comme l'autre, vous avez eu le sentiment à l'époque que vous aviez reçu assez d'informations finalement sur l'homosexualité ? Est-ce que vous vous sentiez bien préparé pour en parler à vos proches ?
Pas vraiment. Je m'y attendais tellement pas, j'y ai pas vraiment réfléchi quand j'étais plus jeune. Alors du coup, ça m'est vraiment un peu tombé dessus comme ça, un peu. Bien sûr, on entend parler dans les journaux, mais ça s'arrête là. Je connaissais personne d'ouvertement LGBT, alors c'était aussi un peu quelque chose de vraiment très nouveau et dont j'avais pas eu énormément l'occasion de parler. Donc même s'il y a un minimum d'informations, je trouve que ça manquait encore.
T'as fait ce que tu t'es renseigné un peu, t'as regardé, je sais pas, des reportages, lu des articles, tu t'es adressé à des associations déjà à ce stade-là ?
J'ai tout d'abord pas mal regardé des émissions ou lu des articles. Après, j'ai été voir les associations, mais plus tard, quand j'étais déjà plus à l'aise avec cette idée. Et non, mais tout d'abord, c'était vraiment mes amis et puis plus la documentation. Voilà.
Marina et Pascal, est-ce que vous avez l'impression que de faire un coming out, c'est plus difficile en tant que fille ou que garçon ? Est-ce qu'à votre avis, il y a une différence ?
Oui, je pense que la réaction est différente selon les personnes. Bien sûr, il y a plein de gens où c'est exactement la même chose, mais je pense que les filles, c'est, en tout cas dans ce que j'ai observé par rapport à mes amis, c'est plus à plus être ensemble, à plus vouloir être amis, un peu à mettre de la distance. Et les garçons, c'est un peu plus frontal.
Comme... Alors les garçons, on va leur demander justement.
Mais donc tu demandes si mes amis hommes-filles et garçons-filles n'ont pas réagi de la même manière ?
Oui, et puis si tu as l'impression qu'en tant qu'homosexuel garçon, c'est peut-être plus facile qu'en tant qu'homosexuelle fille d'en parler.
Bah, fatalement, je suis qu'un homme, donc je ne peux pas vraiment parler pour les filles, mais je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, non. Je ne pense pas. Puis de la réaction des amis, alors là, très clairement, c'est un peu le cliché, mais en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue, les filles étaient beaucoup plus ouvertes par rapport à ça, et ça n'a jamais été un problème. Alors que pour des garçons qui, du coup, n'étaient pas forcément mes amis, mais enfin des camarades de classe qui étaient au courant, très clairement, ça met très très vite en froid. J'imagine qu'il y a toujours un peu rapidement ce cliché de « Ah, il est homosexuel, il a envie de me faire l'amour. Et quelle horreur
!» Tous les garçons sont bien connus.
Oui, bah, évidemment. Voilà. Je pense qu'il y a un peu ce cliché.
Est-ce que pour vous, le coming out, finalement, c'est une sorte de passage obligé dans la vie d'un homosexuel ?
Marina. Moi, je pense que oui, parce que si on a un physique qui ne laisse pas deviner, qui ne correspond pas aux stéréotypes qu'on se fait...
Est-ce qu'il y a le cas de vous deux ?
Voilà, on est obligé de le faire, parce que les gens partent du principe qu'on est hétéro. Du coup, forcément, on a toujours droit aux questions. Alors, t'as un copain ? Et du coup, on est obligé de le faire, et ça, tout au long de notre vie. C'est pas seulement la première fois qu'on le dit, mais c'est tous les jours, quand on rencontre une nouvelle personne, il y a toujours un moment où on doit le dire d'une façon ou d'une autre, que ce soit direct ou que ce soit sous-entendu.
Même chose, j'imagine, pour toi, Pascal.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand même, le premier coming out, si j'ose le dire comme ça, la première fois qu'on le dit à ses amis, ou en l'occurrence pour moi, c'était très important, à ma famille, c'est clairement le plus important. Mais effectivement, Marina a totalement raison. Tout au long de notre vie, on est amené à dire à certaines personnes qu'on est homosexuel, que ce soit de le dire de manière frontale, ou bien simplement, je sais pas, présenter son copain ou sa copine, ou bien en parler.
Et puis vivre comme un vrai couple.
Bah aussi, oui, en un certain sens, quand les gens demandent, voilà, mariage homosexuel doit être, on pourra demander plus tard, ah, vous êtes marié, oui, c'est votre femme qui, votre femme aime bien votre appartement, t'as là, bah, en l'occurrence, c'est mon mari, bah, oui. Voilà quoi, ça va ensemble, exactement, et on est toujours obligé d'en parler, tellement c'est important dans notre vie.
Et pour terminer, alors, en quelques mots, quel message est-ce que vous aimeriez passer aux jeunes, ou aux moins jeunes, qui aujourd'hui ont encore peur de faire leur coming out ?
Bon, c'est... Vaste question, très vaste question. Dans l'ensemble, j'aurais envie de dire, hein, peut-être un peu ce qui se dit tout le temps, mais garder ça à l'intérieur de soi, ne pas le vivre, c'est terriblement difficile. Bon, je le connais pas moi-même, vu qu'au final, je l'ai un peu tout le temps vécu, mais de tout ce que j'en entends parler, de tout ce que j'ai pu lire sur Internet, me renseigner, d'entendre des témoignages, c'est toujours extrêmement difficile pour une personne de nier comme ça une part tellement importante de sa personnalité.
Ce qui génère des frustrations.
Oui, alors ça peut générer des frustrations, on imagine bien notamment sur le plan sexuel, hein. Au final on a tous des envies sexuelles, mais si on les satisfait pas, ou bien qu'on se force à faire l'amour avec des gens qui nous attirent pas, ça va pas être très satisfaisant. Mais aussi au simple fait de se dire à soi-même, ben voilà, genre je suis comme ça, en un certain sens, que je le veuille ou non, et ce premier pas d'acceptation est extrêmement important.
Et toi Marina, un mot de conclusion peut-être ?
Oui, c'est surtout pour les personnes hétéros qui ont des amis qui leur font leur coming out. C'est pas parce que du moment qu'une personne fait son coming out que cette personne devient homosexuelle. Elle était comme ça avant de vous le dire, et c'est pas parce que vous êtes au courant que cette personne change et qu'il faut changer de comportement avec.
Oui, je crois que c'est une belle conclusion, hein. Effectivement. C'est une très belle conclusion que nous dit Marina pour ce mois sur la thématique LGBT. Accepter les gens comme ils le sont. Je ne fais pas de la poésie de bas étage, mais effectivement, je crois que c'est quand même la conclusion qui en ressort après ce mois, Aude.
Absolument, oui. Je crois que avec tous les invités qu'on a reçus ici, c'était quand même le mot qui revenait. Et puis, on a quand même pu constater que tous ces gens sont extrêmement ouverts d'esprit envers les hétérosexuels qui peuvent parfois les discriminer. Voilà, c'était un beau sujet de tolérance.
Et bien voilà, on arrive gentiment au terme. On remercie Marina et Pascal d'avoir partagé cette histoire, vos histoires avec nous ce soir. Merci beaucoup pour votre sincérité et puis bon retour chez vous.
Merci. Merci à vous, au revoir.
Et on remercie également Aude pour la préparation de ce sujet et ton implication dans toute cette série LGBT ce mois de novembre. On rappelle que pour plus d'informations sur le coming out et l'homosexualité en général, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association Voguer, www.voguer.ch. Et tous les podcasts de cette série LGBT sont à réécouter encore et toujours sur notre site www.django.fm. Surrender, c'était Black Avery sur Radio Django.
Radio Django, la rose des vents.
18h22, c'est l'heure de notre chronique presse-papier, la revue de presse migrante de Yves sur Radio Django. Bonsoir Yves.
Bonsoir Fabien.
Alors Yves, quoi de neuf dans l'actualité de la migration ?
Eh bien Fabien, notre chronique sort de la pure actu et s'inscrit dans ce mois de réflexion sur l'homosexualité à Radio Django avec cette question : être persécuté en raison de son orientation ou de son identité sexuelle, cela permet-il d'obtenir le statut de réfugié en Suisse ?
Oui, la question est donc de savoir si l'homosexualité peut être connue comme un motif d'asile.
Oui, c'est bien ça Fabien. Et pour y voir plus clair sur ce sujet, je vous conseille une brochure publiée en 2014 par Queer Amnesty, qui est un groupe d'Amnesty International Suisse, qui porte ce titre « L'orientation sexuelle et l'identité de genre comme motif de fuite ».
Et alors, que nous apprend cette brochure ?
On y apprend par exemple qu'en 2013, l'homosexualité est pénalisée dans 78 pays, dont 35 d'Afrique, ce qui peut se traduire par des coups de bâton, des amendes, des peines privatives de liberté, de l'emprisonnement de longue durée ou la mort. L'homosexualité est en effet passible de la peine de mort dans 5 pays, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Yémen, la Mauritanie et des parties de la Somalie et du Nigeria. Pour les personnes qui ont fui l'homophobie ou la transphobie dans leur pays d'origine et qui cherchent protection en Suisse, Amnesty utilise la notion de requérant d'asile LGBT. Donc LGBT, c'est les initiales de lesbienne, gay, bisexuel, transgender.
Et que dit la loi sur l'asile en Suisse pour ces personnes ?
Eh bien, pour être connu comme réfugié en Suisse, il faut être exposé à de sérieux préjudices ou craindre de l'être en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Mais, comme l'indique Amnesty, la loi sur l'asile n'a pas prévu explicitement des motifs de fuite spécifiques aux personnes LGBT.
Cela veut dire qu'aucun homosexuel homosexuel ou requérant d'asile LGBT ne peut obtenir l'asile en Suisse ?
Non, on ne peut pas dire ça, puisque la Suisse a accordé l'asile pour ce motif, pour la première fois en 2003, mais ça reste quand même très difficile d'obtenir l'asile en Suisse pour ces motifs. L'avocat Martin Bertschi, cité par Suisse Info en mars 2014, estime à 90 le nombre de requérants LGBT en Suisse qui ont fait une demande d'asile donc entre 1993 et 2007, et seuls 4 d'entre eux ont obtenu l'asile, donc 4 sur 90. Donc, pour mieux comprendre le pourquoi de cette politique suisse très restrictive, je me suis entretenu avec Chloé Bregnard-Ecoffet, directrice du service d'aide juridique aux exilés, le SAGE, à Lausanne, qui vise à organiser la défense juridique des requérants d'asile vaudois déboutés.
Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de savoir s'il il est possible d'obtenir l'asile en Suisse en raison de persécutions liées à son orientation ou à son identité sexuelle. Est-ce que c'est possible en Suisse ?
Oui, en théorie, c'est tout à fait possible. Une personne qui viendrait, par exemple, d'Arabie Saoudite où le fait d'être homosexuel peut valoir une condamnation à mort, la personne qui arrive à rendre vraisemblable son homosexualité et qui vient d'Arabie Saoudite obtiendrait l'asile en Suisse.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de prouver alors qu'on est homosexuel, ou comment ça se passe dans ce genre de cas ?
Alors évidemment, il y a une immense difficulté à rendre vraisemblable le fait d'être homosexuel, surtout dans des pays où les personnes ont appris à être discrètes. Et puis, dans la majorité des cas que nous, on voit, ce sont donc les personnes qui ont reçu des décisions négatives. Les personnes qui ont reçu des décisions positives, on ne les voit pas. La grande majorité des décisions négatives repose sur le fait que l'autorité ne croit pas la personne qui avance des motifs de persécution liés à l'identité sexuelle.
Donc ça veut dire qu'au SAGE, vous avez suivi un certain nombre de personnes dans cette situation, et est-ce que finalement vous avez obtenu une issue favorable ?
On a rencontré passablement de personnes qui mettent leur identité sexuelle en avant. On a eu beaucoup de situations négatives dans lesquelles on n'a pas défendu les personnes parce que c'était compliqué. Précisément pour des questions de vraisemblance et de preuves. On a repris les dossiers plus tard, lorsque les personnes se sont insérées en Suisse et ont pu rendre vraisemblable par le fait de côtoyer des milieux lesbiens ou gays, qui ont pu être soutenus par des associations, donc ont pu rendre crédible par d'autres éléments leur homosexualité, ce qui nous permet par la suite d'obtenir un livret F, pas un permis B, une admission provisoire et pas un permis de réfugié. Souvent, parce qu'il y a aussi une problématique psychique à côté, du coup, entre la question de l'homosexualité ou la question de la problématique médicale, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui fait que l'autorité donne finalement une autorisation de rester en Suisse.
Mais est-ce que le problème, dans le fond, ça ne vient pas que comme c'est difficile d'avouer l'homosexualité déjà à soi-même et à l'autorité, dans le premier entretien, quand on est au niveau du SAGE, au niveau du recours, c'est trop tard en quelque sorte pour venir après coup et dire « en fait c'était ça mon vrai motif d'asile ».
Alors effectivement, on a eu un certain nombre de situations où les personnes ne nous ont même pas dit lors de la première fois qu'elles viennent nous voir, où elles nous le disent des mois, voire des années plus tard. Alors dans notre pratique, en tout cas, ça semble être irrécupérable, c'est-à-dire que l'autorité ne va vraiment absolument pas croire une personne, ce qui est très problématique parce que la Cour de justice de l'Union européenne dit que, comme pour le cas d'un viol ou de quelque chose qui est traumatisant, et être homosexuel dans certains pays est vraiment traumatisant, fait que ces personnes n'arrivent pas à le dire dans un premier temps, le disent plus tard. Mais la pratique de la Suisse, c'est que si ce n'est pas avancé lors des premières auditions, ça semble vraiment très difficile de ensuite rendre crédible ce motif-là. Et à ce niveau-là, j'aimerais juste dire que assez souvent dans les décisions négatives, parfois le SEM ne remet pas du tout en question l'homosexualité de la personne, mais lui dit qu'elle peut être simplement discrète et que si elle vit de manière discrète, elle sera pas, elle aura pas de problème dans son pays d'origine, ce qui est évidemment critiquable d'un point de vue des droits humains.
Donc vivre discrètement dans son pays d'origine, comme ça on n'a pas besoin de venir demander l'asile en Suisse. Et donc sur cette argumentation pour le moins cynique et très discutable du secrétariat d'État aux migrations, le SEM, que je vous laisse réfléchir jusqu'à notre prochain rendez-vous mensuel.
Eh bien oui, voilà, la réflexion est lancée. Merci beaucoup Yves pour ce presse-papier. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle édition.
1, 2, 3, 4...
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Né à Douala, au Cameroun, en 1986, Max Lobé arrive en Suisse à 18 ans pour des études en communication et journalisme à Lugano. Puis il fait un master en politique et administration publique à Lausanne. L'écriture l'accompagne depuis toujours. En 2009, il reçoit le prix de la Sorge de l'Université de Lausanne pour sa nouvelle « Le baccalauréat ». En 2013, son roman 39 rues de Berne aux éditions Zoé fait sa renommée, un succès confirmé par son livre La Trinité Bantou, finaliste du 14e prix des 5 continents de la francophonie. Avec une écriture vive et inventive où sa culture d'origine est omniprésente, Max Lobé parle de la science, il parle même de la société, de la politique, de l'exil, de la prostitution, de l'homosexualité, de la pauvreté ou encore de la richesse multiculturelle. Aline l'a rencontré à Genève au Café Remords.
J'avais toujours su que mes mères finiraient un jour ou l'autre par m'accepter telle que j'étais. Mais je ne savais pas que cette acceptation se ferait aussi gaiement, avec de si beaux mots. Après tout, certaines de mes mères venaient de pays où les gens comme ça ne sont pas les plus aimés. Mbila, par exemple, venait du Cameroun, où les présumés d'Epsos sont emprisonnés. Charlotte venait du Nigeria, qui les lapidait à cœur joie. Extrait de 39 rues de Berne, écrit par Max Lobé, aux éditions Zoé.
Ladies and gentlemen, we are arriving in Geneva. On track 2, the exit on the right-hand side, direction of travel.
Quand c'est que vous avez commencé à écrire, à vous dire « Ah tiens, j'aimerais bien écrire un livre ».
C'est une longue histoire, mais je pense qu'en général, l'écriture, c'est déjà dans mon adolescence, j'ai été très vite écarté parce que je n'étais pas un enfant comme les autres, je n'arrivais pas à jouer au football. Et un petit garçon qui n'arrive pas à jouer au football, c'est un scandale. Du coup, j'étais le plus vilain canard. Et donc, j'ai très vite rejoint le club des commérageuses. Et donc, je me suis retrouvé dans les pattes de ma mère. Et là, vous voyez les histoires qui m'ont formé quand elle commence à dire mon mari a fait ça, il a fait ça. Je vous dis, aïe! C'est vraiment. Et très vite, j'ai vécu avec ces mères-là qui étaient de grandes conteuses, qui jusqu'à aujourd'hui, elles vous racontent une histoire, peut-être un petit truc, mais elles en font un immense hommage. Quand je raconte des exagéreuses, c'est vraiment ça. Je sais pas, elle a mal à la tête, elle vous dit qu'on lui a. Elle a une sinusite, elle a un cancer à la tête, pourtant c'est un petit truc, un dafalgan et puis c'est tout. Mais pour vous mettre toujours en état d'alerte. Et j'ai grandi avec ça, mais vraiment j'étais tout petit, avec toujours ces histoires, racontaient ce que faisait leur mari, ce que font les enfants. Ah, tu sais, ma fille, je l'ai vue récemment. Est-ce que tu sais qu'elle sort avec ce voyou-là? Mais ce voyou, mais il faut le frapper! Il faut le frapper, il va détourner ta fille. Donc toutes ces histoires, très tôt, j'avais 5-6 ans, ça rentrait dans mes oreilles. Une fois, je suis intervenu, j'ai gâté l'ambiance. Et à partir de là, ma mère, elle m'a mis de côté, on me donnait des journaux. Toujours des articles politiques ou des articles sociopolitiques, Alia. Et après, la littérature est arrivée tout petit à petit, puisque j'étais un peu esselé. Et donc, pour ne pas parler seul, j'ai commencé à écrire des petits trucs, à écrire. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'écrire comme un Français, puisque c'est pas mon identité. C'est pas mon manteau. Alors, je veux écrire dans un français qui m'est proche. Je veux me reconnaître à l'intérieur. Je veux utiliser des expressions que j'utilise tout le temps avec ma mère. Pourtant, on parle français. C'est un combat aussi personnel pour moi. Il faudrait bien qu'on sache que la francophonie n'est pas française, encore moins parisienne. Pour moi, la francophonie purement linguistique, elle est trop belle, trop belle. Vous partez au Sénégal, vous écoutez des mots en Côte d'Ivoire, mais des mots, vous écoutez des chansons, vous vous dites, mais ah bon, ils appellent ça comme ça. Et pourquoi les Français ne reconnaissent pas ça? C'est ça qui est bizarre. C'est ça.
Vous parlez avec beaucoup de métaphores hein, dans vos livres. Vous parlez aussi que parfois il y a des Africains qui deviennent un peu des noix de coco. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur.
Oui, bien sûr, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 11 ans que je vis maintenant en Suisse. Le temps passe, hein. Ah, bientôt 30 ans. Je commence à faire ma crise de la trentaine. J'ai acheté des containers de Botox pour prévenir, on ne sait jamais, avant que les prix n'augmentent. Non, mais bon, bref, je veux dire, évidemment, on ne peut pas vivre en Suisse pendant une dizaine d'années et rester inchangé. Ou alors, on est un bloc de glace. Mais qui suis-je? Là, c'est la question que vous me posez. Qui suis-je? Moi, je suis avant tout un Bantou. Que l'histoire a fait camerounais et avec beaucoup d'influence, même suisse. Quand on dit influence suisse, ça veut dire quoi? J'ai vécu au Tessin, j'ai vécu à Lausanne, à Genève, je vais très souvent en Suisse alémanique, notamment orientale, pour plus citer encore le canton des Grisons que j'aime beaucoup, où j'étais encore la semaine dernière. J'entends finalement qui suis-je? Parce que si je prends un Grison qui est à l'autre bout de la Suisse et un Genevois, ils n'ont rien de commun. Vous savez, quand vous arrivez au Grison, à Davos, et puis vous dites « Bin aus Genf », les gens vous regardent « Also Genf, also Schweiz », on dit c'est incroyable, c'est comme si j'arrivais d'un pays lointain. On est en Suisse, et c'est trop petit. On n'est pas imperméable, mais ce que je suis, c'est ma racine. C'est le petit... C'est ce petit garçon à Douala qui mangeait son riz et qui attendait son morceau de viande. Et qui, voilà, c'est ça, c'est ce que je suis vraiment. Parce que, évidemment, je peux changer, je peux m'adapter à plusieurs cultures. Je vous disais tout à l'heure, on peut laisser un bâton dans l'eau pendant 100 ans, il ne se transformera jamais en crocodile. Je peux passer toute ma vie ici. Je vais bien sûr être, et je me sens à bien des égards genevois. Mais au fond de moi, il y a toujours, quand je réfléchis par rapport à un problème, notamment un problème social, il y a toujours un truc de mon enfance, de cette vraie culture, de cette racine-là qui vient.
Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Est-ce que vous avez été victime, vous, de discrimination en Suisse?
La discrimination, il y a partout, qu'on soit camerounais, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, il y a toujours des discriminations. Je pense que la discrimination, comme par exemple le racisme, c'est une connerie universelle. Dans la plupart des cas, j'ai toujours essayé de ne pas penser que c'était quelque chose de personnel. J'ai un esprit assez positif par rapport à ces choses. Vous savez, le racisme, c'est partout. C'est partout, même en Afrique. Est-ce que maintenant je vais dire « Oh, pauvre de moi, noir, en Suisse, c'est moi qui sont en train d'attaquer parce que je suis moi, Max Lober, parce que je suis moi, noir ?» Non, ça ne m'abat pas. Alors, bien au contraire, ça ne m'abat pas, ça me fait me relever encore plus, prendre encore plus d'initiatives et me dire que Je vais y aller, je peux vous assurer, c'est bien plus difficile quand on est noir et immigré, homo, que lorsqu'on est blanc, hétéro, suisse ou européen, en général, ici. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. S'il y a des combats à faire, je vais les mener, je n'ai pas peur des combats. Je trouve ça jouissif, orgasmique de mener un combat. Vous savez, ce que je n'aime pas, c'est quand on juge vite. Je ne veux pas qu'on me juge vite. Quelqu'un peut me voir, il voit que je suis noir, j'ai des dreadlocks, je suis au paquis, je suis peut-être en train d'attendre quelqu'un et je fume dans la rue, je suis là, debout. Et il pense que oui, selon les informations qu'il a, il les met ensemble, il se dit « je suis vendeur de drogue, il peut venir vers moi ». Alors moi, ma réponse, c'est laquelle? Je lui dis « je n'en ai pas, mais je peux vous donner un roman si vous voulez ». Vous voyez, c'est l'expérience qui va faire que la personne va changer de stéréotype. Mais tant qu'il n'a pas vécu autre chose, il ne pourra pas se dire « mais tiens, la dernière fois quand même, ça n'a pas marché ». Je pense que même moi, je fonctionne avec les stéréotypes. Mais qui donc dans ce monde ne fonctionne pas avec les stéréotypes? Qui lève la main? Quand un stéréotype se transforme en préjugé, c'est là où ça devient dangereux. Quand on commence à dire « je ne donne pas l'appartement à cette dame parce qu'elle est noire », et parce que le fait d'être noir veut dire qu'elle est sale, qu'elle fait du bruit, là, ça commence à être dangereux. Mais si on dit, cette dame, je ne sais pas, elle est noire, elle doit venir d'Afrique, eh ben, c'est un stéréotype, oui. Oui.
Max Lebé au micro de Aline dans ce portrait du mois. Et pour prolonger la rencontre, n'hésitez pas à aller sur le site de Django où vous trouverez d'autres extraits de ce reportage ainsi que toutes les références dont on a parlé ce soir ainsi que les références de ses livres. Et puis je vous cite encore l'article de l'événement syndical qui est à retrouver sur événement.ch. Going down like the water in the river flows. That's how it goes, another day, another story told. Stuck inside the puzzle, searching, still trying to get a hold. Forgotten souls got lost in the cold. Trying to get the freedom, now they need them. Walking down the Hope Road. They said they hoped so, but it was a no-go. Front row stage show, well-placed logo. Fancy lights and the cameras are on. But we don't care, he's just there to sing another sad love song. Fade to black, soundtrack to another night. It's the music of the rain and the city lights. Feel no pain, it makes the whole city bright. Without the sparkle of hype, it's just another night. Fade to black, the soundtrack to another night. It's the music of the rain and the city lights. Feel no pain, it makes the whole city bright. Without the sparkle of hype, it's just another night. And they all knew what it was from the first glance. No excuses, should have planned in advance, man.
Documented on Pro Tools, a task and struggling hustles of an ordinary black man.
Spin a record with a 2-week lifespan. Can't find a good girl, so we hooked a mic stand.
Not a lot of paper left in his right hand. Making enemies of folks he treated like fam.
Stone cold, solid rock at every point stop. What you lean on soon as the pressure drop.
Ghetto hot, know the ledger, you'll get a shot. But they'll never stop till his name's known on every block.
Spread my wings, fly away to the night beat. Who's wide awake while the rest of the city sleeps.
In these gritty streets, dudes need plenty heat. Take it no mind that we grind, losing plenty sleep. Yeah, yeah. Some play for keeps while you lay to sleep. In the dark, your worst nightmare waits for heat. And it ain't the sun, though dawn is near. Air's crisp and calm, I think a storm is near. And I'm watching lightning dance across the skyline. Usually miss it, rarely find time to bask in blackness. Hint of line shiner in the jazz club, chilling, sipping with fine wine. Hypnotized by the strum of the upright. Feel like lost souls got their eyes on me some night. So I keep my eyes wide and be cautious. Slip and find yourself in a brand new coffin by morning. Now you're one with the night breed. You should have known better if you're anything like me. But the city lights will seduce you. Day walkers beware if it's not what you used to.
Radio Django, culture.
Et on commence avec l'agenda de ce mardi, un agenda qui se calque dans la thématique de cette émission LGBT. On commence avec une table ronde sur le thème de la violence domestique au sein des couples de femmes. C'est une soirée discussion ouverte à tous qui est organisée par les associations lesbiennes Lilith pour le canton de Vaud et L'Estime pour le canton de Genève. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours contre la violence faite aux femmes qui se tient d'ailleurs 6 jours-ci dans le monde entier. Cette soirée traitera de ce thème délicat qui reste encore fortement tabou, même au sein de la communauté lesbienne. Et vous me croirez ou non, à ce jour, aucune statistique concernant concernant la violence au sein des couples de femmes n'existe, ni même au reste de la violence, donc des statistiques contre la violence à l'encontre des femmes homosexuelles ou transgenres. Alors si cette rencontre, discussion vous intéresse, cette table ronde se tiendra à Lausanne mercredi prochain, ce sera le 2 décembre, au grand salon du Buffet de la Gare à 18h30. L'entrée est libre et si vous souhaitez des renseignements, rendez-vous sur le site association360.ch. Et puis, on vous en parlait au début du mois, nous recevions l'association Voguet et son coordinateur Florent Jouineau. Il nous expliquait notamment l'existence de soirées, discussions et rencontres avec les membres pour les antennes régionales de Voguet. Alors, on écoute tout de suite un extrait de l'interview de Florent Jouineau, justement, au micro d'Isaac. C'était dans le grand direct de Radio Django le 3 novembre dernier. Nous lui demandions pour qui s'adressent ces soirées.
Alors, tout le monde est le bienvenu. À partir du moment où on partage la même vision de l'acceptation de la diversité sexuelle, sous toutes ses formes, que ce soit des orientations sexuelles ou des identités de genre, les personnes sont les bienvenues. Donc après, voilà, qu'elles soient en questionnement ou qu'elles soient dans une construction identitaire ou déjà out, tout le monde est le bienvenu et nous accueillons même des hétéros, on est même hétéro-friendly, c'est-à-dire que des personnes hétérosexuelles qui ont des amis, qui retrouvent dans ce contexte-là une ambiance qu'elles apprécient, en l'occurrence majoritairement des filles, mais aussi des copains de filles qui fréquentaient le groupe viennent aussi. Voilà, tout le monde est le bienvenu, simplement c'est un espace sécure, c'est-à-dire que la discrimination et les violences ne sont pas acceptées.
Et puisque tout le monde est bienvenu, ces soirées se tiennent donc cette semaine. Je vous donne brièvement les dates. Ce jeudi, c'est à 19h, rencontre du groupe jeune dans la région de Payerne. Ce vendredi, à 19h aussi, c'est la rencontre du groupe jeune de Nyon, qui se tient à la maison de quartier de la Levrate à Nyon. Vendredi toujours, à 19h, il en est de même à Aigle. Et enfin, vendredi, à 19h30, cette fois-ci, rencontre du groupe jeune de Lausanne. C'est au local de Voguet, anciennement l'espace mosaïque sur les rues des côtes de Montbenoît. Nom numéro 15 à Lausanne. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Voguet, www.voguet.ch, et on vous a mis les liens sur le site, sur le nôtre d'ailleurs, django.fm.
Django, 18-19h.
Et on parle toujours culture, toujours en lien avec la thématique LGBT, la thématique de cette émission de ce mardi. Une fois par mois, le cinéma Hoblot programme un film qui aborde les préoccupations des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Le Ciné-Club, qui a le mérite. Merci Pascaline, il a le mérite, voilà, comme ça j'apprends le français en même temps. Il a le mérite donc de montrer des œuvres qu'on voit encore trop peu sur les écrans. Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Quentin Delval. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité de l'Hoblot. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire ciné-club LGBTique?
Alors ça veut dire que c'est un ciné-club, d'abord je précisais que c'est l'association Voguer qui l'organise, ce n'est pas le comité de l'Hoblot qui choisit les films, c'est une précision importante, donc nous sommes un peu les hôtes de ce ciné-club, et donc ça veut dire que la programmation, elle reflète les thèmes de société qui sont liés aux problèmes que peuvent rencontrer les personnes LGBT, et la mission de Voguer se transmet à travers ce ciné-club, c'est-à-dire qu'ils font de la sensibilisation, qu'ils font aussi de l'information, et c'est une programmation qui est aussi, je trouve, donc ça c'est mon avis personnel, assez large pour pouvoir inviter d'autres personnes que les personnes qui sont a priori concernées, donc je trouve que c'est une belle ouverture dans le sens, comme il le disait dans le thread que vous avez passé, c'est hétéro-friendly, donc voilà ce que ça veut dire.
Les projections justement sont organisées donc avec l'association Voguer. Comment oui. ça se passe la collaboration entre l'association du cinéma Hoblot et Voguer?
Donc l'Hoblot c'est un comité qui est ouvert et qui a vocation à recevoir des projets qui sortent de l'ordinaire. Donc il y a un aspect alternatif, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans les grands circuits de diffusion culturelle avec comme objectif donner une place à ceux qui veulent aussi produire la culture à Lausanne. Dans ce cadre-là, n'importe qui peut venir dans nos réunions qui se font deux fois par mois proposer un projet. Donc Voguer est venu nous trouver. Nous a parlé de son ciné-club, nous a demandé si on était d'accord avec ça. Et on a évidemment été d'accord avec ça parce que c'est un projet qui rentre dans toute notre charte de valeurs, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont accès à notre salle, ils choisissent leur film et ils ont une espèce d'autonomie par rapport à l'organisation de ce ciné-club.
Alors, tu disais justement que c'est un beau projet parce qu'il correspond aussi à un certain nombre de valeurs de l'Hoblot. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer en quelques mots? Donc, comment ça se passe la sélection des films, je dirais, au sens large, et des projets qui se tiennent donc, dans les locaux de l'Hoblot?
Alors, quand je parle de valeurs, il n'y a pas une liste de valeurs établie. C'est-à-dire que, par définition, on est un comité qui n'est pas hiérarchique, qui entend être inclusif. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'il n'y ait pas de prise de parole qui écrase les autres. Donc, dans le sens où le ciné-club LGBT est une ouverture, une défense de la prise de rôle que l'on veut prendre chacun dans la société, ça correspond à nos valeurs. Maintenant, on n'a pas une charte restrictive de valeurs, bien sûr. Ça correspond aussi à nos valeurs parce que, comme j'ai dit, c'est une création de culture. C'est des gens qui amènent quelque chose à la collectivité. C'est quelque chose qui, c'est un ciné-club qui propose des films et des métrages qu'on ne voit pas forcément ailleurs, qui ne sont pas disponibles sur grand écran ailleurs. Donc voilà.
Donc justement, cette notion de remplir une sorte de trou dans la programmation, c'est quelque chose qui est assez cher à l'Hoblot.
Ouais. Alors c'est remplir un trou, mais c'est pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est aussi par besoin qui est exprimé au sein de la population. C'est-à-dire que c'est pas remplir pour remplir avec des choses alternatives parce qu'elles sont estampillées alternatives. On a aussi la volonté, à travers d'autres activités qu'on fait d'ailleurs, de pouvoir toucher des vraies préoccupations et de pouvoir ouvrir les horizons. Donc c'est pas juste une forme de label alternatif.
Tu disais que c'est l'association Voguer qui sélectionne les films oui. du Ciné-Club.
Oui.
C'est le cas pour tous les films qui sont projetés, ils sont toujours choisis par d'autres, ou est-ce que le comité de l'Hoblot a une sorte de droit de regard ou de vue sur les films qui vont être projetés?
On a une forme de droit de regard assez large, dans le sens où on ne va pas projeter des films qui sont, par exemple, racistes, ou qui sont justement discriminants à l'égard d'une partie de la population. Donc ça nous est déjà arrivé de refuser quelquefois de prêter la salle pour des activités qui ne nous semblaient pas correspondre à ça. Donc on est inclusif dans ce sens-là aussi, on a une certaine éthique. Après, tant que ça ne rentre pas dans ces excès-là, on n'a pas de censure à faire.
Du coup, à propos d'inclusion, justement, le prix de l'entrée est libre pour les projections donc, du Ciné-Club.
Oui.
C'est une décision qui s'est prise naturellement ou c'est toujours le cas pour les projections de l'Hoblot? Comment ça se passe, la politique de prix?
Alors, la politique de prix, elle est inclusive aussi, mais elle n'est pas toujours à prix libre. C'est-à-dire que pour des films qui sont un peu plus, dont on achète les droits à des distributeurs, on a quand même des frais qu'on doit assumer parce qu'on n'a pas de sponsor. On est tous bénévoles, donc on fait l'argent sur le bar qui est à prix libre, lui, ou bien les entrées. Alors on a des prix d'entrée qui sont de 10 ou de 5 francs, pour pour les films. On a d'autres activités, par exemple, de diffusion documentaire qui s'appelle Cinéma Politica, où l'idée est de pouvoir amener de la connaissance sur différents thèmes de société à tout le monde. Et donc là, par exemple, les prix sont libres. Donc ça dépend vraiment des activités. Là, c'est Voguet qui a décidé, je pense. Nous, on n'y est pas opposés. Et puis, nos activités à nous, ça dépend un peu du prix qu'on a dû mettre à pouvoir diffuser un film. On ne peut pas toujours se permettre de le faire à prix libre. Mais en général, si c'est possible, on le fait.
Et souvent, quand on a des discussions justement sur des films d'avant-garde ou des films qui traitent de thématiques spécifiques ou qui remplissent comme ça une sorte d'espace laissé libre par la programmation, la question de la qualité des films, elle arrive des fois sur le tapis comme ça, comme si forcément on allait accepter toutes sortes de films moins réussis ou dont la forme, disons... passe un peu après le contenu. Ça, est-ce que c'est une préoccupation que vous avez à l'Oblo en tant que comité au moment où on vous propose des films ou au moment où vous choisissez des films ?
Oui et non. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, on essaie d'avoir l'ouverture maximale vers l'expérimental aussi. Mais on fait aussi attention à faire en sorte que ce ne soit pas exclusivement ça. Donc on a par exemple un festival qui est organisé de temps en temps qui s'appelle le Cagouf. C'est le comment ça s'appelle déjà, le Cagouf, le Catharsis Avant-Garde Underground Oblo Festival, voilà, je me rappelle maintenant, c'est dans lequel il y a vraiment un peu de tout, y compris l'expérimentation. Maintenant, c'est pas non plus une espèce de marque de fabrique qu'on essaie d'avoir, donc on essaie aussi d'avoir des films qui, en termes de qualité, sont lisibles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça dépend vraiment des sensibilités de chaque personne, dans le sens où chacun dans le comité est libre d'apporter ses projets comme il le veut, il s'en occupe. Les autres ne vont pas lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, on a aussi, par exemple, parfois des activités qui sont la diffusion de travaux de fin d'année de personnes qui ont étudié le cinéma, donc qui sont aussi très, entre guillemets, en formation, donc inachevées de ce point de vue-là. Donc, il n'y a pas un souci de qualité dans le sens formel. Par contre, effectivement, sur le contenu, il peut se faire un consensus autour d'un film en disant bah, là, effectivement, on ne voit pas du tout ce que ça peut nous apporter au public, on ne comprend pas où ça va. C'est peut-être un peu notre faute de ne pas le comprendre, mais on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Donc voilà, on n'a pas la science infuse non plus.
Et en même temps, dans ces discussions sur voilà, de questions d'ouverture et de tolérance et d'avoir des films très différents comme ça dans une programmation mensuelle, est-ce que ça arrive que, aussi parce que vous parlez de production de culture, donc il y a quelque chose de nouveau comme ça qui surgit, qu'il y ait des films tout d'un coup qui lancent des sortes de débats ou d'insurrection parmi les spectateurs, ça vous est arrivé ?
Insurrection, moi je ne l'ai pas encore vu. Dans le festival, là, effectivement, il y a eu des moments assez intéressants. Dans le cadre de diffusion documentaire, on a organisé et on va organiser cette année des projections avec l'objectif d'avoir après un débat ou une discussion avec le public. L'année passée, on avait fait la projection d'un film qui s'appelait Vessel sur l'avortement, la problématique de l'avortement médicalisé ou pas médicalisé. On avait invité des gens du planning familial du CHUV et de l'association Le CLAC. On a aussi organisé des films sur la situation en Haïti avec la problématique de l'humanitaire qui finit par être contre-productive. On va organiser en février un cycle sur les privilèges, donc comment les personnes privilégiées le reste et les personnes exclues le reste. Et à chaque fois, on essaie d'inviter des personnes qui vont pouvoir apporter un regard au-delà du film pour que le public ne soit pas juste laissé à lui-même à la fin de la projection sans pouvoir continuer. Donc on veut être un point de départ vers une espèce de réflexion ou de prise de conscience.
Donc on ne soit pas uniquement dans la consommation du film, mais vraiment aussi dans une réflexion et dans une participation à ce qu'on va voir. Et je crois que ça représente assez bien, en fait, aussi ce que propose Voguet à travers le Ciné-Club.
Oui, c'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'à la fin d'une projection, la personne ait envie de rejoindre le comité et venir proposer ses activités également, que ce soit dans le cadre des projections Voguet ou des autres.
Eh bien, je crois que tout est dit. Merci beaucoup, Quentin
Delval. Avec plaisir, merci pour votre invitation.
Merci beaucoup. Et on rappelle encore que la prochaine projection du Ciné-Club LGBTIC aura lieu le 17 décembre au cinéma Oblo. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.oblo.ch.
Tout à fait.
Et puis, ben, bonne présentation et puis bonne fin d'année.
Merci, vous aussi. Au revoir.
6 sujets ce soir. On a parlé notamment des nouvelles du collectif R qui se tient actuellement à l'université de Lausanne. Nous avons eu 2 témoignages, Marina et Pascal, 2 jeunes homosexuels de la région lausannoise. Nous avons également parlé de l'actualité du presse-papier de la presse des migrants. Nous avons eu le portrait de Max Lebé, l'agenda de la semaine et le cinéma Oblo qui traite également une programmation LGBT puisque c'est la thématique de notre soirée. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. Dans un instant, on se retrouve pour une émission spéciale Marché de Noël solidaire. Ben oui, je le disais à l'instant à notre invité, bonne fête de fin d'année puisque ben oui, les marchés de Noël commencent à fleurir ici et ailleurs. Alors ce soir, ce sera l'occasion de parler d'un marché de Noël solidaire, une émission pour découvrir un autre type de marché de Noël. Rendez-vous donc dans quelques instants. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour une nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Le programme est à suivre et à retrouver sur le site django.fm et sur notre page Facebook avec une petite recherche django.fm. Vous trouverez toutes les informations, j'en doute pas. Et puis, pour écouter l'intégralité de cette émission, rendez-vous samedi matin sur le coup dès 11h et dimanche à partir de 13h. Et comme je vous le disais il y a un instant, on se retrouve dans un instant pour cette émission Marché de Noël solidaire sur Radio Django, le temps que les invités viennent autour de la table. Je vous souhaite un bon début de soirée.